Au-delà des apparences. Des apparences. Au-delà des apparences, une émission proposée par Sandrine Merck. Au-delà des apparences. Des apparences. Au-delà des apparences, une émission proposée par Sandrine Merck.
Bienvenue à toutes et à tous. Je vais vous faire un petit résumé, je pense, des précédentes séquences que nous avons déjà passées avec Andrei, Florine et Nathanaël. Donc sur l'histoire des Roms et de la scolarité, mythe ou réalité, est-ce que c'est culturel, est-ce que les Roms vont ou ne vont pas à l'école, mais surtout, qu'ont-ils vécu ces dernières semaines et ces dernières années sur le terrain de la Flambère près de Purpan, à Toulouse, un campement qui a été démantelé donc cet été, qu'il soit démantelé, c'est une chose, mais en fait, ce qui nous intéresse beaucoup dans cette émission, c'est que sur ce terrain, et depuis le Covid, peu à peu, s'était agrégé une façon d'aller à l'école qui est absolument recordman, c'est-à-dire qu'un taux d'inscription à 95%, un taux d'assiduité à 66%, ça concernait près d'une 45 enfants. Et aujourd'hui, je dirais presque un peu du jour au lendemain, on n'est pas très loin de la rentrée, tous ces enfants-là ne font pas leur rentrée. Et c'est quand même un peu un drame parce que c'est un très long travail, la scolarisation. Et globalement, est-ce que c'est suffisamment pris en compte dans les pouvoirs publics ou dans les questions d'expulsion? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui tous ensemble. Je voudrais juste vous réexpliquer, parce qu'on avait terminé là-dessus la semaine dernière, que ces deux jeunes, ils montent aussi sur scène, ils sont aussi sur les planches théâtrales, et le dernier spectacle... Alors moi, le premier spectacle m'avait fait mourir de rire, parce qu'il reprenait tous les travers, tous les poncifs qu'on a envers les Roms, et tous les travers, sauf qu'ils les jouaient eux-mêmes, tout ce qu'on a en tête comme préjugés, comme clichés. Là, c'est beaucoup plus triste, paraît-il, Andrei, je crains le pire.
Oui, c'est un spectacle sur les camps d'internement, pour revenir à camps d'internement, on a créé des poésies à partir de ce qu'on a vu. On a vu des archives départementales, on a vu des carnets anthropométriques, on a vu des camps d'internement, on a vu le camp de Noé, le camp de Rivesaltes,
Recebedou.
Et à partir de tout ça, de tout ce qu'on a vu, et surtout tout ce qu'ils ont vécu, les Tziganes pendant la guerre, on a pu créer des poésies et des mises en scène.
Qui racontent quoi alors?
Qui racontent la mort, qui racontent ce qu'ils ont vécu dans les camps, la faim, les séparations.
La soif aussi.
À la fin de la guerre, ils se retrouvaient avec rien, ils se dépouillaient.
En fait, c'est un spectacle. Alors, c'est un travail en cours plutôt que spectacle parce que c'est pas encore abouti.
C'est ça.
Mais c'est ce spectacle est l'aboutissement d'un projet qu'on fait depuis 4 ans sur comprendre le racisme contre les Roms aujourd'hui, qu'on appelle l'anti-tziganisme.
Qui est une priorité nationale de lutte. Au niveau gouvernemental d'ailleurs.
Oui, mais
on en reparlera peut-être.
Un sujet en soi parce qu'on a du mal à voir comment il se concrétise. Mais en tout cas, nous, on s'en saisit comme ça. Enfin, ça, on s'en saisit, c'est l'essence même de Rencontre-nous de lutter contre l'anti-tziganisme. Mais ça nous paraissait primordial que les jeunes premiers concernés comprennent d'où ça vient et comment il s'est construit par les pouvoirs publics depuis plus de 100 ans. Donc effectivement. On a visité les archives, on a visité des camps, et de toute cette matière, ils en ont écrit eux-mêmes des poésies qu'ils déclament sur scène. Donc on est loin du théâtre drôle qu'ils les ont vus grandir sur scène, mais le théâtre ne fait pas que rire, c'est aussi c'est le versant pas drôle du théâtre, mais qui fonctionne tout le temps, parce que des gens pleurent quand ils les voient sur scène, parce que ça reste un extraordinaire support de sensibilisation et d'information, parce que la plupart des gens ne connaissent pas cette histoire.
Et comment vous ressentez-vous aujourd'hui l'anti-tsiganisme? Parce qu'on n'est pas certain non plus que ça ait beaucoup évolué dans les mentalités françaises.
Il est toujours là, le racisme, il est toujours l'anti-tsiganisme, mais on le ressent moins parce qu'on est, plus près des gens, parce qu'on essaie que les gens ils nous voient autrement. Et je sais pas, je le sens moins qu'avant, même s'il est toujours là, même si on est tout autant discriminé.
Vous avez compris que, quelque part, le fait de communiquer et de faire le premier pas vers des gens qui ont peur, en général, parce qu'ils connaissent absolument rien et pas, et c'est vrai que c'est assez compliqué de mettre un pied dans un campement ou dans un bidonville, de toute façon. Donc, vous avez compris qu'une fois que c'est franchi, ça, en général, il n'y a plus de problème, quoi, en fait. Il n'y en a plus beaucoup. Non, j'en sais rien.
Enfin, moi, d'un regard extérieur, parce que pour passer beaucoup de temps avec eux, je vis les mêmes situations, mais je les ressens pas de la même manière. Mais il y a le contrôle aux faciès, la sécurité dans les magasins, dans les transports en commun. Enfin, il y a un milliard de manières de vivre le racisme. Il est plus ou moins intériorisé, donc on ne le ressent pas forcément comme du racisme. Mais il y a quand le droit commun, certaines assistantes sociales, elles peuvent avoir un milliard de clichés, du coup ça vient biaiser des accompagnements sociaux. Il y a plein de manières de subir le racisme parce qu'il est systémique. Voilà, j'emploie des mots un peu barbares ou des gros mots, mais c'est tout ça, on l'a appris dans 4 ans de projet. Hein. Ça s'est tellement construit et enraciné partout dans la société qu'il y a plein de manières de le transmettre. Inconsciemment, hein, souvent, mais eux, les effets sont concrets pour eux.
Inconsciemment, dans la mesure où parfois c'est presque une seconde peau, en fait, véhiculée, vécue, en fait, par celui qui le reçoit, quoi. Il y a aussi, il y a eu beaucoup aussi d'antiziganisme qui était un des obstacles pour l'inscription à l'école, déjà en mairie, quoi, en fait, ou dans toutes ces institutions, finalement. Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça évolue? On a commencé à aborder la question du gouvernement et de sa priorité de la lutte anti-tzigane. On en est où aujourd'hui, en fait, de tout ça?
Au niveau de l'école ou de manière générale?
Non, au niveau du... qu'est-ce qui est fait pour que, oui, que le plan soit... et comment on fait un plan anti-tziganisme? Je rappelle peut-être aussi que les jeunes allaient dans les écoles, dans les collèges, pour expliquer ce qu'est un Rom. Et là, ça marche, ça. Ça, c'est une médiation qui marche très, très, très fortement, parce que les élèves qui reçoivent ça, ils laissent tomber leur pensif directement. C'est du face-à-face. Et puis, j'imagine qu'ils en parlent ensuite avec leurs parents, quoi.
Oui. On en est où, ce plan? Donc, il a été déployé en 2023, donc le plan de lutte nationale contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine, qui fait la mention... Donc, c'est un plan 2023-2026, et qui a fait mention de l'antiziganisme pour la première fois. Donc c'était une victoire symbolique pour les associations. Donc il y a plein d'annonces concrètes qui ont été faites. Certaines sont en cours de réalisation, mais le plan est censé se terminer l'année prochaine.
Mais comme quoi alors
Il y a des modules de formation dans l'éducation nationale. Ah, oui. Il y a plein de choses, mais qui prennent du temps à se dessiner au niveau national. Et après, le temps que ça vienne au niveau local... le plan sera terminé et on sera en train de préparer le suivant. Donc, mais c'est quand même des avancées. Après, un petit peu d'associations ont été soutenues financièrement parce que ça passe aussi par là. La plupart des assos quand même se plaignent que le pourcentage reste minime par rapport à l'enveloppe budgétaire dédiée à la lutte contre le racisme. Mais ça progresse. Voilà, on est encore loin de ce qui est attendu, mais ça progresse. Après, on parlait de l'école. Oui, nous, on n'a jamais eu le cas à Toulouse parce que Toulouse était assez exemplaire en matière de scolarisation des enfants qui vivaient en situation de grande précarité.
Oui, c'est clair.
Et donc,
hein.
Des Roms. Mais ce n'est pas le cas partout, notamment en région parisienne. Et même maintenant qu'on sort de Toulouse, on côtoie ces difficultés-là avec certaines mairies. Ou même si c'est facile d'inscrire, il y a d'autres leviers pour faire obstacle. Donc ça, malheureusement, nous, on est en train de le vivre parce qu'on est face à d'autres mairies qui ont d'autres politiques, qui ont d'autres références. Donc c'est d'où l'intérêt du collectif et de s'organiser. Voilà, ça c'est aussi notre parti pris. Mais on est encore très très loin de la facilité d'inscription des enfants qui vivent en situation de grande précarité, même si c'est mieux qu'avant, qu'il y a 5 ans. Mais il y a encore de très nombreux enfants qui restent non inscrits à l'école.
C'est vrai qu'on peut faire quand même, on peut donner un grand coup de chapeau à l'éducation nationale versus Toulouse, parce que... voilà, ils sont assez exemplaires et il y a très peu de jeunes qui sont laissés sur le carreau. En revanche, alors du coup, au niveau de la situation nationale, vous disiez l'importance du collectif, d'accord, du partenariat, le réseau national de la médiation scolaire, qu'est-ce que c'est aujourd'hui concrètement ?
C'est tous les médiateurs scolaires qui interviennent sur les lieux de vie informels. La plupart sont financés par la DIA, donc la délégation interministérielle à l'hébergement et l'accès au logement, qui a déployé en 2020 le programme de médiation scolaire, qui n'est pas un programme de l'éducation nationale. Il y a un programme qui dépend, la DIA dépend du ministère du logement. Donc ça, c'est important de dire que le programme de médiation scolaire ne dépend pas de l'éducation nationale. Donc ça veut dire que ça a mis du temps, mais ça nous a obligés à travailler avec l'éducation nationale. Nous, c'était facile à Toulouse parce qu'on avait déjà fait ce travail-là depuis 2017, mais sur d'autres territoires, la relation n'est pas facile. Donc maintenant, les choses sont beaucoup plus posées et sont beaucoup plus fluides. Mais malgré tout, donc, ça a permis la scolarisation de beaucoup d'enfants. Et nous, on ressentait au niveau associatif le besoin d'avoir un espace associatif avec les postes qui sont financés par la DIAN. Mais la DIAN ne finance pas tous les postes de médiation scolaire. Il y en avait qui existaient auparavant. Et par exemple, à Toulouse, il y a 3 postes qui sont financés au-delà, enfin pas par la DIAL, donc il nous fallait un espace en plus de la DIAL pour élargir le cercle de médiateurs, médiatrices scolaires au niveau national, pour partager nos pratiques, parce que c'est un métier qui n'existe pas, qu'il faut créer, avoir une fiche de poste, avoir un référentiel.
Et puis c'est quand même la clé un peu du chemin vers l'école quand même, si on est un peu moins protocolaire et qu'on explique l'intérêt de la médiation scolaire aux gens qui nous écoutent.
Hein. Exactement, et puis c'est aussi un espace de plaidoyer. Où, du coup, en mutualisant nos pratiques, nos difficultés, ça nous permet de faire remonter des choses, de faire des propositions. Et à terme, c'est essayer de, à l'image du décret de 2020, c'est comment on fait des petites victoires législatives qui simplifient la scolarisation et qui... Alors, tout ne se fera pas du jour au lendemain. Enfin, moi, je suis pragmatique. On n'arrivera pas à révolutionner changer de système en un an. Mais voilà, comment on se fixe un plaidoyer qui soit réalisable et comment on peut scolariser de plus en plus facilement et d'avoir de moins en moins de réticences au niveau des pouvoirs publics en face.
Et le décret 2020, en quelques secondes, il porte ses fruits aujourd'hui ou en quelques secondes hein?
Je pense que oui, parce qu'il y a plus
d'enfants
qui
simplification
sont
administrative à l'inscription scolaire. Oui.
Donc oui, il porte ses fruits dans le sens où il y a plus d'enfants qui sont inscrits à l'école et que c'est une arme juridique en plus pour quand il y a des procédures judiciaires. Mais il faut pouvoir aller au tribunal, il faut pouvoir être accompagné. Mais en tout cas, oui, c'est un... Ce serait malhonnête de dire que non, parce que c'est
Il faut reconnaître quand ça avance. C'est une grande avancée. Moi, je souhaite énormément que ça fasse tache d'huile, parce que le travail de lilliputien et de dentelle que vous faites ici à Toulouse, et qui est exemplaire, devrait pouvoir servir beaucoup plus vite et être déclenché beaucoup plus vite dans tout un tas d'autres lieux. Parce qu'une scolarité ratée, ça va très très vite. Un enfant, il passe très vite de 3 ans à 7 ans, de 7 ans à 8 ans. Et là, on est capable de briser des trajectoires un peu dans l'œuf, quoi. Merci infiniment à tous. On termine de nouveau en musique. Et puis, sur le site internet, vous aurez les dates des spectacles de cette jeunesse rome. Merci, à bientôt, à la semaine prochaine.
Merci.
La cravata, ma un bravo babbo plec la parada. Sai hashi talenti o arta, non s'invazza, non s'arata.